Voilà. On est un petit comité, c'est génial. Alors, ce matin, je voulais vous dire d'abord que, bonne nouvelle, vous avez tous été choisis. Un jour, pour certains il y a très très longtemps, pour d'autres il y a peut-être quelques temps, vous avez été choisis. Et ce dont je voulais vous parler ce matin, c'est une image qui est dans l'ensemble de la Bible, Ancien Testament et Nouveau Testament, c'est l'image du potier dans son atelier. Alors quand même, pour vous remettre les choses en perspective, qui c'est qui a été déjà dans un atelier de potier ? Oh, ça va, pas mal. Et qu'est-ce qui vous a frappé le plus ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce qui vous retenez ? Voilà, oui, le tour. Bon. Et finalement, le four, oui, ouais, pas mal, le four. Et autrement ? Est-ce que vous avez retenu aussi une impression un petit peu de...
Les mains,
oui. Et l'impression un petit peu d'avoir un tas de fouillis, de choses pas terminées, non ? Et puis c'est assez boueux quand même, hein ? Voilà. Alors quand même, pour vous mettre... Vous savez, il faut toujours avoir des images. Vous voyez ce trait au milieu, là ? La petite bande, là ? Ben, le moment que vous avez retenu le four, le passage au tour et ensuite au four, ça prend dans le temps. Parce que la première chose à retenir, et vous allez voir, il y a beaucoup de choses là-dedans, c'est le temps. Et ben, ce moment-là, c'est ça, cette largeur-là. Depuis le bout là-bas jusqu'à là, c'est le moment, là-bas vous avez été choisi, quelque part dans la montagne ou quelque part dans un fond de lit de rivière, enfin ça je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Et entre le moment où vous avez été choisi et le moment où vous pouvez passer sur le tour et ensuite dans le four, c'est ce petit moment. Et puis après, ben, c'est quand vous êtes des beaux vases, des beaux ustensiles, ça va de là jusqu'à l'autre bout. Donc par rapport à cette largeur, vous voyez que ce qu'on retient, c'est ça. Là où on en bave, c'est ça. Et puis, là où on est dans la glorification du vase, c'est ça. Donc c'est presque la moitié, hein, si je me souviens bien. Alors, il y aura aussi des passages que je vais vous... Il y aura pas mal de passages, parce que vous allez voir que dans l'ensemble de la Bible, c'est une image qui est très souvent utilisée. Alors, je viens de vous dire, bon, finalement, chacun de nous a été choisi. Chacun de nous a un rôle unique à jouer. Et je crois que ça serait bon de se remettre ce matin en tête. Sa contribution à apporter, et personne ne peut prendre la place que Dieu nous a assignée. On n'est pas, vous savez, comme on dit des fois, bon, de toute façon, un de perdu, 10 de retrouvé, ou alors on a plein de formules comme ça pour dire, on n'est vraiment pas indispensable. En dépit de toutes nos fautes et imperfections, nous sommes ses chefs-d'œuvre. Au moment où il nous façonne, au moment où il nous prépare, entre le moment où nous avons été choisis jusqu'au moment où il nous façonne, tous ces moments-là sont bien dans un but, c'est de permettre que pendant une longue période, et cette longue période, d'après vous, elle va jusqu'à où ? L'éternité. Donc ne gênions pas parce que nous avons... Allez, vous savez que dans la Bible, il y a des gens qui ont mis 100 ans, 150 ans à être préparés. Je pense qu'ici, personne n'a atteint cet âge vénérable, donc pour l'instant... Et certains sont déjà des vases formés. Et puis d'autres sont encore dans une forme un peu informe. Mais ils sont tout aussi précieux. Et ces chefs-d'œuvre incomparables, en fait, nous sommes des créatures qui dépassent la science et la technologie. Aujourd'hui, aucun homme scientifique ne peut dire « ça y est, je sais faire un homme » ou « je sais même l'imiter ». Nous sommes la combinaison de molécules la plus complexe jamais appelée à la vie. Nous sommes les vases les plus précieux du maître potier. Dans Jérémie, au chapitre 18, versets 1 à 6, il est dit « La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Et vous, vous êtes aussi, vous savez, les rejetons de cette maison d'Israël. Vous êtes aussi dans la main du Seigneur. Vous êtes entré dans l'atelier du potier. Peut-être que vous êtes dans une deuxième salle, dans un endroit où vous allez voir où on prépare l'argile. Et je vous rappelle aussi ce passage, donc dans cette image du potier et aussi de la terre, de là où nous sommes issus, ça commence déjà dans Genèse. Dans Genèse 2, verset 7, il est dit « Le Seigneur Dieu prit la poussière du sol et en façonna un être humain ». Et on n'a pas le temps maintenant, mais je dirais qu'on pourrait vous expliquer que la composition chimique du corps et celle de l'argile sont très proches. C'est bizarre, parce qu'on ne se voit pas tellement comme étant une structure aussi simple et d'une couleur aussi terne. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça ? Et c'est vrai qu'une poterie primée, un beau vase, des vases merveilleux, ceux qu'on a fabriqués en Chine, ceux qu'on a fabriqués pendant des périodes reculées. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, avec les méthodes industrielles, on n'arrive pas à cette perfection-là. En fait, n'a que peu de ressemblance avec la mode d'argile que le potier a extraite de la tanière abandonnée d'un animal sauvage en montagne. C'est souvent ce qu'on faisait. Pourquoi ? Parce que c'était dans ces endroits, qui étaient des endroits naturels, des cavités naturelles, qu'on trouvait les gisements d'argile. Et c'est bien pour nous aussi cet exemple. Alors, que se passe-t-il dans l'atelier du potier ? Dans l'atelier du potier, il y a six étapes. Les trois premières, qui prennent toute cette largeur, cette longueur, si vous voulez, c'est le choix de l'argile, la préparation de cette argile et le repos de l'argile. Et le repos de l'argile, il représente la moitié de cette distance. Donc pour ceux qui seraient inquiets sur la durée de la malaxation de la pâte, il y a un long temps pendant lequel, de toute façon, vous serez au repos. Ensuite, il y a la forme qui est donnée à l'argile, il y a la conception du vase et la forme du vase. Et puis enfin, il y a la restauration, la cuisson et la glorification. Et ça prend la moitié de cette bande. Et tout le reste, c'est notre usage en tant que vase constitué, comme fait. Parce que la différence quand même par rapport à l'argile, bon, vous l'avez quand même constaté, c'est que nous, on a une voix. On peut crier à Dieu. L'argile, ben, je dirais que c'est un matériau par définition inerte, même s'il a des qualités extraordinaires, mais il y a quand même une sacrée différence. Alors, première chose, donc, nous sommes l'argile, reconnaît Ésaïe. Et Paul, dans sa seconde lettre aux Corinthiens, il compare les chrétiens à des vases de terre, qui contiennent un trésor invisible à ceux qui ne comprennent pas la foi. 2 Corinthiens 4, 7. Et c'est vrai que ce trésor, c'est Jésus-Christ vivant en nous. Et il vit dans quoi ? Dans quelque chose finalement de fragile. Alors qu'est-ce que c'est que l'argile ? En fait, c'est la désagrégation des roches qui est obtenue par le lent travail de l'eau et du climat. Et normalement, donc, l'argile la plus pure, c'est celle qui est trouvée, en fait, au pied de cette roche, ou à l'intérieur de cette roche. Mais une deuxième argile, ça, c'est ce qu'on appelle les argiles résiduelles. La deuxième argile, c'est celle qui a, en fait, été entraînée par l'eau, par les pluies dans les rivières, et qui a fini par se déposer quelque part. Alors, il y a une grande différence, et on pourrait mettre aussi cette image sur... un certain nombre de personnes qui ont été choisies par Dieu et qui ont été choisies très tôt, presque à la source. Et puis il y a ceux qui se convertissent à 30 ans, 40 ans, etc. Donc ça montre un peu la différence entre... La différence, c'est que l'argile qui a été prise au pied de la roche, elle est généralement difficile à travailler parce qu'elle est très compacte et très dure. Et c'est une argile qui a besoin d'être mise aux intempéries. En Angleterre, par exemple, dans les poteries qui travaillaient pour le roi, on gardait cette argile résiduelle pendant au moins un an aux intempéries, soumis aux intempéries. Donc un an pendant lequel on ne pouvait rien faire avec, il fallait la laisser. Un peu comme du bois qu'on laisse sécher pendant 2-3 ans avant de le brûler. Les argiles sédimentaires, elles, comme elles ont circulé, elles ont un inconvénient, c'est qu'elles ont beaucoup d'impuretés. Et il va falloir faire un travail différent. Le long temps qu'on va prendre, ce n'est pas un temps pour les rendre souples, parce qu'elles sont souples et fines. Elles ont été finalement, par les eaux de ruissellement, etc., elles ont été rendues plus fines, plus malléables. Mais par contre, elles ont un inconvénient, c'est qu'elles ont beaucoup de déchets organiques à l'intérieur. Ces déchets organiques vont faire qu'on va utiliser aussi ces argiles-là pour donner de la couleur, parce qu'elles sont des couleurs différentes. Et ça peut vous expliquer aussi quelque chose de merveilleux. Les images qu'a utilisées le Seigneur dans le Saint-Esprit en inspirant tous ceux qui ont écrit la Bible, c'est de montrer en fait que l'humanité est très différente, que vous avez, finalement, on a tous des couleurs différentes. On a tous des choses qui finalement vont être utilisées par Dieu après, qui sont des impuretés, on va dire, ou des choses qui sont, mais qui vont passer dans la cuisson, être sublimées, être transformées et donner une caractéristique. Et tout le travail du maître potier, ça va être de savoir, il a une science, et cette science, c'est une très très vieille science, puisque ça fait plus 4000 ans qu'on fait des poteries, et c'est par hasard qu'on a découvert comment les qualités de l'argile. Donc vous voyez que déjà là, on peut voir quelque chose d'extraordinaire. Il connaît, il sait où est le bon endroit où la trouver. Et une fois qu'il a trouvé ce bon argile, il a besoin de l'argile sédimentaire comme de l'argile qui vient de ce qu'on appelle l'argile résiduelle. Voilà pour le choix de l'argile. C'est-à-dire que il sait quels sont les bons gisements. Il sait où aller trouver. Et on a répertorié sur des tas de cartes ces endroits où, effectivement, il y a une argile qui est connue pour ayant des qualités exceptionnelles. Donc vous avez été choisi dans un but, et ce but, même s'il paraît lointain, c'est de faire de vous quelque chose qui va pouvoir être travaillé, qui va pouvoir être mis dans un four, et qui va pouvoir être décoré, repassé dans un four pour être verni, et ensuite servir. Imaginez si on prenait le premier argile et au bout de 8 jours, ou même pas, on le rend un petit peu souple, on le met dans un four, mais il casserait. Pourquoi il casserait? Parce que dans l'argile, il y a des qualités spécifiques qui sont ce qu'on appelle le retrait. Alors le retrait, c'est la diminution de taille due à l'évaporation de l'eau. Mais il y a également tout ce qui est à l'intérieur ne doit pas y rester. Il y a des impuretés qui peuvent y rester et d'autres qui ne peuvent pas y rester parce qu'elles font éclater le vase. Mais je ne vais pas aller aussi loin tout de suite. Donc dans cette préparation, c'est simple, il y a tellement de choses à dire que je n'aurai pas le temps. Donc je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail, je vais simplement vous dire que c'est très important, ce temps très long. Par exemple, on met l'argile dans des... Il y a tout un processus, même avec de l'argile qui est... bien choisi. On va le mettre dans, par exemple, on va le mettre dans des profondes cuves, on le mélange avec de l'eau, pour qu'il y ait une séparation entre le sable qui est contenu, le sable, vous savez que c'est de la silice, qui est contenu dans l'argile, et que les impuretés remontent. Et il va se faire une sorte de barbotine. La barbotine, c'est de l'argile mélangée à de l'eau et qui est assez liquide. Et ça permet ensuite de faire une sorte d'écrémage, comme pour... dans le lait, vous savez, pour sortir la crème. Et hop, on passe, ça passe d'un bac à l'autre, jusqu'à ce qu'il y ait une sorte d'argile la plus pure possible. Mais ça, on ne peut pas l'accélérer, ce processus. C'est un processus qui est très long. Même dans l'industrie, par exemple, des grands potiers japonais ont essayé, pour faire une démonstration, ils sont allés aux États-Unis une fois, et ils ont Ils ont voulu faire une démonstration qu'on pouvait faire aussi des beaux pots. Ils ont pris de l'argile industrielle. Et puis, avec les pots qu'ils faisaient, les vases qu'ils faisaient, ils étaient tellement fins, il n'y en a aucun qui a résisté. Parce que le processus industriel est fait pour faire un certain nombre de choses et pas pour faire des choses extraordinaires, quoi. C'est fait pour faire des pots banals, quoi, ou des usages triviaux. Donc il y a une évaporation de l'humidité, il y a des opérations qui sont très longues, fastidieuses. Et certains d'entre nous sont passés longtemps dans cette épreuve-là, c'est-à-dire pour être affinés. Et le temps a de l'importance. Et souvent les jeunes, c'est leur qualité et en même temps leur défaut, hein. L'inverse pour ceux qui ont... c'est pour ça que dans ce qu'on met dans l'argile, on mélange de l'argile, on va dire, relativement pure. On mélange de l'argile qui est, qui vient d'être récoltée et puis qui après a été travaillée, avec des pots qui ont déjà été cuits et dont les débris ont été mis en fine poussière. On a besoin de faire ce mélange-là avant la cuisson. Parce que ça améliore la qualité. Donc vous voyez qu'on pourrait même en sortir l'image que on a besoin de tout le monde, quoi. On a besoin des vieux pots et puis de ceux qui sont déjà bien usagés, bien fatigués. On a besoin de tout le monde. Et alors, la deuxième étape, je vous ai dit, très importante, avant de passer devant le tour, c'est le repos. Alors là, il y aurait tellement de choses à dire que, je vais vous dire... Là-dessus, il y a le quart du temps total, même si là, il y a l'infini. Donc, c'est même pas le quart, mais par rapport à cette étape très longue de l'attente, il y a la moitié. Alors, reposer, il y a tellement de choses dans la Bible sur le repos que j'en ai fait une fois un sujet quand on était en cellule de prière et puis en cellule de maison. Et je dois dire que c'est vraiment, ça nous a bénis parce qu'on a vraiment tiré pour nous beaucoup de choses. Et moi, je suis certainement, c'est dans ce domaine-là que j'ai eu le plus de mal, c'est d'admettre qu'on a besoin de se reposer. Mais pas le repos. N'oubliez pas quelque chose qui est faux dans nos sociétés à propos du repos. Et je pense que vous allez tout de suite voir quelles sont les fausses idées que vous avez là-dessus. D'après vous, on se repose. On se repose parce que, pourquoi ? Parce qu'on est fatigué. Oui, parce qu'on a bien travaillé. Mais pour Dieu, on se repose avant de travailler. Le repos est la condition préalable aux événements à venir. On ne se repose pas parce qu'on a trop travaillé. On doit se reposer. Regardez voir ce qui s'est passé à la création. Il a demandé à l'homme de se reposer. Mais il avait fait quelque chose, l'homme. Il n'avait rien fait. C'est Dieu qui a tout fait pendant les 6 jours et le 7e jour. Dieu, d'accord, a demandé à ce que l'homme se repose. Et c'est devenu d'ailleurs le premier jour de la semaine. Donc ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Ce n'est pas une conséquence, c'est une condition préliminaire, le repos. Avant même de passer sur le tour, il faut reposer l'argile. Et nous, ça nous paraît bizarre. Dans nos habitudes, où on dit toujours le temps, c'est de l'argent... On fait faire des produits, ce qui compte, c'est que ça se fait en 5 minutes. Hein, toutes ces machines qui nous aident à faire tout en 5 minutes, bientôt on va pouvoir mettre... Et en fait, Dieu nous demande complètement autre chose. Pour que la texture de l'argile devienne régulière, il faut un temps de repos. Donc là aussi, vous avez par exemple comme passage Exode 23, 12, Exode 34, verset 21, à propos des commandements que la non-observance du jour de repos était passible de la peine de mort. Pourquoi ? Est-ce que, je pense que ça mériterait qu'on ait aussi, je crois que sur le sabbat, sur toute l'importance du sabbat, il y avait aussi beaucoup de choses, il y aurait beaucoup de choses à dire. Et finalement, là... C'est quelque chose que notre société, que le monde aujourd'hui veut nous ôter. Et je suis le premier, moi, à avoir être tombé dans le panneau. Hein. Et tous les potiers qui sont inexpérimentés, qui essaient d'ignorer cette importance du repos pour l'argile, en fait, arrivent à avoir des... au moment du tour même, déjà, du passage sur le tour, ça va déjà se fissurer. Tellement c'est important. Alors, étape suivante, c'est le potier qui donne sa forme à l'argile. Alors, d'après vous, est-ce que il le met sur le tour et puis il dit, bah, qu'est-ce qu'on va en faire, là, tiens? Hop, il voit, oh, ça part bien, ça pourrait faire un vase. Non, il sait ce qu'il veut faire avec. D'accord? Il sait ce qu'il veut faire avec. Et dans cette conception du vase, je vous rappelle que Dieu savait pour nous qui sommes aujourd'hui dans son atelier, même par exemple dans le psaume 139, au verset 13, il est dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Au verset 15, il est dit « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Et au verset 16, il est dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Aucun vase, aucun bol, aucune tasse, aucune assiette, et a fortiori, aucune destinée, aucune identité que lui a voulu pour nous, n'est là par hasard. On n'est pas le fruit d'un hasard. Même ceux qui ne sont pas nés dans des conditions qui nous semblent aujourd'hui bonnes. Ceux qui sont nés, par exemple, d'un viol. Ceux qui sont nés de circonstances, on va dire presque, ouais, on pourrait dire presque nous, par hasard, quoi. Tout a son origine dans l'esprit du potier, dans ce qu'il veut créer. Chacun correspond à une décision nettement arrêtée par le potier avant même de mettre le tour en mouvement. Donc avant même que on soit préparé, il savait ce qu'il voulait préparer avec, ce qu'il voulait faire. Et en plus, il est dit dans la parole qu'il nous connaît chacun intimement. Je viens de dire au psaume 139, verset 16, il savait même le but pour lequel il nous avait créés. Ce n'est pas un artiste capricieux, Dieu. C'est pas. Il nous fait avec vraiment beaucoup de soin et de réflexion. C'est un potier qui connaît la beauté, l'harmonie, l'ordre, la symétrie. Qui a créé les mathématiques? Qui? Quand on sait, par exemple, à quel point les grands mathématiciens sont certainement ceux qui ont les plus grandes joies aujourd'hui parce qu'ils découvrent que des choses extraordinaires peuvent se mettre en équation. Et des fois, on se dit, mais c'est tellement rébarbatif, les mathématiques. Mais quand on voit, par exemple, au XXe siècle, il y a eu des progrès énormes en mathématiques. On a, par exemple, sorti des théories, ce qu'on appelle les théories du chaos, pour montrer que même dans le jeu des vagues, dans un certain nombre de choses, il y a des théories mathématiques et que l'univers entier est géré par... on peut le mettre en formule mathématique. Mais tellement compliqué que ce n'est pas possible que ce soit le fruit du hasard. Ce n'est pas possible que ce soit quelque chose qui soit comme ça. Même Einstein a dit que la création, si elle était le fruit du hasard, c'est comme si on disait, voilà, je découpe un dictionnaire de 1000 pages, lettre par lettre, je lance toutes les lettres en l'air et ça retombe sous forme du dictionnaire. Ça, c'est Einstein qui l'a dit, pour dire que plus les gens sont intelligents, plus ils découvrent que c'est pas possible, quoi. Que Dieu est le créateur de tout et que nous sommes là, dans sa main, une sorte de masse informe dont il va faire quelque chose de merveilleux. Mais j'en suis encore à, voilà, on est là, au bord de ce trait. Et sur ce petit temps, il va former le vase qu'il pense depuis toujours, il va le mettre dans un four, et quand il sortira du four, il ne sera plus de l'argile dont on ne sait pas quoi faire, parce qu'aujourd'hui, je vous donne un morceau d'argile, si vous n'êtes pas potier, qu'est-ce que vous en faites? Rien. Vous avez même peur de vous salir avec. Et quand ça sort du four, que c'est décoré, verni, ça devient un objet utile ou un objet beau. Donc après, il le met sur le tour. Et là, ça, c'est important de savoir que tout le travail du potier sur le tour, c'est d'avoir une terre, donc l'argile, qui est docile. Tout son travail, c'est qu'il est de l'argile qui soit docile. Pour qu'il puisse le façonner, qu'il puisse le lever. Et donc, le boulot de l'argile, c'est de suivre. S'il a été bien préparé, il va suivre. Parce qu'il y a trois directions. D'accord ? Si jamais vous avez mis une fois les mains sur une masse d'argile, quand on voit faire un potier, on se dit, comme on dit en Alsace, ça, je suis cornix. Hein, hop, ça monte, il met les doigts dedans, et hop, ça tourne. Mais essayez de voir une fois. Rien qu'une fois, essayez de voir. Demandez, si vous êtes une fois dans un atelier en vacances, demandez à faire quelque chose avec. Vous n'allez pas y réussir. C'est pas possible. On arrivera peut-être à monter un petit peu, et si on n'arrive pas, tout à coup, il y a tout qui part de travers ou qui est cassé. Et c'est pour ça que dans ce moment-là, on voit si effectivement on se laisse étirer, si on se laisse mettre en forme. Et donc tout le travail de préparation, si on y a été docile à ce travail de préparation, si on s'est laissé malaxer, si on s'est laissé, fouler au pied, parce que une des méthodes pour rendre l'argile plus souple, c'est de le fouler au pied. Est-ce que vous pensez que Dieu... qui c'est qui croit que Dieu s'est déjà mis à lui marcher dessus pour qu'il soit vraiment plus tendre? Vous ne croyez pas? Moi, je pense que si. Lisez Jérémie dans les Lamentations, il pense vraiment que Dieu lui a marché dessus. Hein. Mais pourquoi? Parce que peut-être on n'a pas été docile, parce qu'on était dans une argile particulièrement dure. Alors d'autres à qui ça n'arrive pas parce qu'ils sont plus souples, qu'ils soient bénis. Eux, ils ont peut-être d'autres choses à sortir, je ne sais pas moi. C'est peut-être des choses qui vont sortir dans la lente décantation. On n'est pas assez soumis, des fois on n'est pas assez docile. Moi, je dois reconnaître que j'avais un grand esprit, ou que j'ai toujours un esprit d'indépendance. Que c'est un combat chaque fois pour rentrer dans un plan. Parce que, voilà, on a reçu un certain nombre de dons, mais qui peuvent se révéler, avoir des façades, moins intéressantes. On ne va pas se laisser facilement changer de direction. Ou alors on n'est pas dans la confiance parce qu'on a été blessé petit. Tout ça, le Seigneur le sait. Tout ça, il le sait, et il va donc avoir une méthode différente avec chacun de vous. Il va vous utiliser, vous préparer. Parce que ce qu'il ne veut pas, c'est de voir quand vous êtes sur le tour, tout le temps que ça ne passe pas, quoi, qu'il n'arrive pas à vous donner une forme. Mais il ne veut pas non plus vous mettre sur le tour s'il pense que de toute façon, dans le four, vous allez craquer. Parce que c'est quoi le four? Et j'en viens au four. Qu'est-ce qu'on met comme poterie au four? Des poteries qui sont prêtes, tournées. Et quand on les met au four, c'est quoi? C'est comme... c'est une épreuve, hein. Parce que passer 10, 12 heures à, 700 degrés, 1000 degrés, je dirais que là, ça passe ou ça casse, comme on dit. Hein. C'est exactement ça. Là, on ne peut pas au milieu dire stop. Moi, j'ai rencontré un potier de temps en temps dans la vallée de la Dolère. D'ailleurs, si ça intéresse les uns et les autres, c'est quelqu'un qui montre facilement le travail qu'il fait. Donc, on met beaucoup de poterie dans un four. Mais c'est bien fait, il y a un pourcentage de casse qui est très faible. Quoi. Et la casse provient d'un manque de préparation. Parce que quand vous avez formé sur le tour, à ce moment-là, il peut restaurer un vase qui, par exemple, ne passe pas bien. Mais il ne va pas le mettre au four. Si, par exemple, à ce moment-là, il s'aperçoit qu'il n'a pas été assez affiné, il reprend le tout, et puis il va le laisser reposer encore un certain temps. Donc certains d'entre nous sont déjà formés, mais ils sont sur l'étagère. Alors, il y a beaucoup d'étagères dans l'atelier, vous avez remarqué, avec des pots gris comme ça. Alors certains sont carrément en train de sécher une dernière fois après être passés sur le tour. D'autres sont déjà en forme de biscuit. Alors ce qu'on appelle un biscuit, c'est une première cuisson. Et c'est une première cuisson avant de mettre dans la deuxième cuisson le vernis, par exemple, qui va donner cette fois-ci l'aspect, par exemple, l'étanchéité ou certains autres aspects. Donc, on est dans différents états, quoi. Mais on n'est pas utilisable tant qu'on est sous forme de biscuit, tant qu'on est sous forme de, on va dire, de jolie peau. D'ailleurs, souvent, quand j'allais dans le sud de la France, quand on est dans les poteries, on s'approchait, puis on nous demandait de ne pas toucher, parce que la moindre petite, si vous touchez avec une clé ou avec n'importe quoi, ou avec les doigts, il y a des traces, puisque c'est mou encore. C'est juste, ça vient d'être tourné, de la journée ou de la veille, c'est en train de sécher, ça va sécher 24 heures, puis après, ils le mettent au four. Ils attendent, une fois par semaine, ils font un four, puisque c'est quand même... ils mettent des grosses fournées, quoi. Et donc, avant de le mettre au four, il y a encore cette restauration. Alors ça, c'est pas une étape que vous connaissiez, à mon avis. Hein. La restauration du four. Vous ne pensiez pas que c'est à ce moment-là qu'on restaure. Hein. Parce qu'une fois que le four est cuit, hein, on ne restaure plus rien. On casse, on met en miettes, et on va l'inclure dans la prochaine cuisson, dans la prochaine préparation d'une pâte. Mais là, on n'a pas besoin de beaucoup de morceaux. Alors, dans ce qu'on appelle la restauration, ben, c'est simple. C'est avant qu'il le mette au four, il veut être sûr qu'il n'y a aucun défaut de forme, de traces d'outils. Mais des fois, il va y avoir des traces qui sont voulues. Par exemple, quand on empile un certain nombre de pots, on a besoin, pour les attacher ensemble, de laisser une sorte d'imperfection, une sorte de... qui ne va pas servir après dans l'usage, mais qui va être là pour... qui va finalement servir de décor un peu. C'est un décor parce qu'on dit, tiens, c'est un usage particulier. C'est ce qui fait nos différences. Pourquoi vous avez des gens qui sont grands, petits, je ne sais pas moi, qui ont un peu tous les... Il y a tous les genres. Hein. Bon. Mais c'est aussi des choses qui sont des petits accidents. Et certains vont dire, bah, ok, bah, c'est finalement... C'est comme l'artiste. Est-ce que vous avez déjà vu un peintre? Bon, moi, ça me semble... Des fois, on se dit qu'une imperfection, tout à coup, c'est pas mal. Hein, une goutte d'eau qui est tombée, ou... pareil pour un coup de ciseau, quand on fait une sculpture, on peut dire c'est quelque chose qui va améliorer. Parce que c'est un petit peu le hasard qui a amené ça. Par contre, si c'est complètement vrillé, si c'est affaissé, bah, il le remet sur le tour, il va le remalaxer, et hop, il repasse. Et ça, c'est le message de toute la Bible, finalement. Que dit ce que j'ai dit au début dans Jérémie 18, au verset 1 à 4, c'est ça? Qu'est-ce qu'il dit au peuple d'Israël? Il dit au peuple d'Israël, voilà, bah, mon boulot, c'est de vous remettre sur le tour, quoi. Hein, c'est pas encore cuit, là, hein, ce passage. Je sais pas si... quand je n'étais qu'une masse informe, non, c'est... ça, c'était... donc, c'est dans Jérémie 18, 1 à 6. Quand il dit à Jérémie... Lève-toi, descends dans la maison du potier. Et qu'est-ce qui arrive dans la maison du potier? Il voit que le potier travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Donc c'était encore mou. Et il dit, comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Donc vous voyez, la restauration, c'est là qu'elle vient. Donc tant que vous n'êtes pas passé dans le four, c'est l'épreuve. Le four, c'est... le moment décisif, vous allez être définitivement dans la forme et jusqu'au dernier moment, le Seigneur peut intervenir et vous refaire finalement, de A à Z ou alors juste corriger quelque chose. Parce qu'une fois que vous êtes dans le four, c'est sûr, là ça crame. C'est un stade d'achèvement, car Dieu, comme le potier, utilise le feu pour nous amener à maturité. Et ça aussi, c'est une... Quand vous relirez au travers de vos lectures bibliques, regardez voir le feu et le sel, qui vont d'ailleurs souvent ensemble. C'est quoi finalement? Dans Marc, il est dit à un moment donné, j'ai plus la référence, mais que vous serez tous salés de feu. Non, c'est ça? C'est salés de feu, je crois. C'est comme, en fait, c'est en parallèle, c'est pas une traduction facile qui. Je sais que j'avais une fois lu des commentaires là-dessus. On n'a pas vraiment l'origine de l'expression. Ça veut dire en fait que vous serez dans une forme d'épreuve, mais une épreuve constructive, pas une épreuve destructive. L'épreuve qui est subie par Dieu n'est pas une épreuve qui est là pour vous anéantir. David d'ailleurs disait bien à un moment donné, je préfère être entre les mains de Dieu qu'entre les mains des hommes. Et quand Dieu lui a proposé une punition, on va dire, il a dit non, mais c'est toi qui me la donnes la punition, pas... Je ne veux pas être entre les mains des hommes. Je ne veux pas que ça soit eux qui décident. Nous craignons souvent le feu parce que nous savons qu'il produit chaleur, contrainte, souffrance. Nous savons qu'il détient le pouvoir de nous détruire. Mais dans les mains d'un Dieu aimant, le feu donne naissance à des vases résistants. Donc la dernière phase, c'est de faire de nous comme l'argile. Si on était des vases non cuits, on serait mou. En fait, on serait beau, on aurait une belle forme, mais on serait en devenir. Il faut d'abord qu'on ait cette résistance. Et pour avoir la résistance, cette transformation chimique qui fait qu'on devient de quelque chose de mou, qui ne va pas résister à quelque chose qui résiste, il faut qu'on passe dans le feu. Beauté, force surgissent des cendres de l'adversité. Et Jacques médite aussi sur le rôle des épreuves extrêmes. Il dit, en Jacques 1, verset 2 à 4, « Mes frères, considérez-vous très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves, car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la patience, mais veillez à ce que votre patience se manifeste pleinement, afin que vous soyez parfait et complet, qu'il ne vous manque rien. » Et après le stade de la cuisson, il y a un stade qui est vraiment aussi méconnu, c'est celui de la glorification du vase. Alors vous voyez, 8 étapes, une répartition dans le temps qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a comme perception. Pensez-y, quand vous verrez, il y a énormément de passages dans Romains, dans Hébreu, dans l'Ancien Testament, il y a Ésaïe, il y a les Psaumes, il y a la Genèse, il y a Jérémie, où on parle de cette image. L'homme est l'argile, les hommes sont l'argile, Dieu est le grand potier. Et c'est vrai que quand on va regarder de près l'atelier d'un potier, qu'on comprend comment c'est fabriqué, évidemment dans les méthodes qui produisent la meilleure qualité, on s'aperçoit que c'est une image tellement vraie, mais qui n'est plus, c'est vrai, en corrélation avec ce qu'on a dans notre environnement. Je pense qu'aujourd'hui, aucun de vous travaille dans une poterie. Je le saurais, mais enfin, bon, je ne pense pas. Et qui a vraiment l'expérience de ce travail? Personne. On a vu comme ça, on sait, oui. Et comme on le voyait tout à l'heure, bon, on pensait que le tour et puis le four, voilà, était ce qu'on a retenu. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a été choisi, qu'il y a un long temps de préparation, que sans temps de préparation, il y a dedans la moitié de temps de repos, et qu'ensuite, il y a une période très courte pendant laquelle on va être vraiment formé. Et après, il y a l'éternité pendant laquelle on est. Et ça a vraiment un rapport avec l'identité qu'on vit en ce moment. Cette identité qu'on a. C'est-à-dire qu'il est en train, il nous a créés, il nous a choisis, il nous a donné une nouvelle nature. Et à partir de là, il fait quelque chose de nous qui est merveilleux. Mais nous, bon, des fois, on est là aussi pour contrecarrer ses plans, pour dire, bon, Seigneur, écoute... Il y en a aussi qui vont peut-être se dire, je préférerais être dans le temps de préparation. Je veux rester dans le temps de préparation. Je préfère être sur l'étagère. Pourquoi pas? Parce que, où il y en a certains qui se disent, je passe sur le tour, mais alors Je ne vais pas aller dans le four. Hein. Là, bon. Voilà, donc rappelez-vous de ça et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui ont qui pensent qu'effectivement ils entravent le travail de préparation de ce que le Seigneur fait avec eux, que vraiment ils demandent la prière. Ça va peut-être faire son travail en vous, de vous dire voilà, je suis effectivement à me poser des questions sur où j'en suis dans la vie. Demandez à ce moment-là qu'on ait un discernement avec vous, pourquoi pas, et que si vous avez repéré où ça pêche, là où vous voulez retarder cette formation, cette disponibilité, si vous sentez que voilà, vous êtes sous les pieds de Dieu en train d'être malaxé, alors demandez la prière et ce sera peut-être ça la délivrance, quoi. Voilà. Amen.